Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères, la fête de la Sainte Famille doit son existence à deux papes qui firent beaucoup pour sa diffusion dans le monde entier. Tout d'abord, le premier d'entre eux, Léon XIII, qui a placé son pontificat sous la protection de Saint Joseph. Ce pape instaura la liturgie de la Sainte Famille en 1893. Léon XIII, premier pape. Deuxième pape, Benoît XV, qui étendit en 1921 cette fête à l'Église universelle. L'institution de cette fête est donc fort récente. C'est qu'il fallait répondre à un besoin urgent de notre époque moderne. Le diable, qui déploie tout l'arsenal de ses armes infernales pour emmener le plus grand nombre d'âmes avec lui au fin fond de l'enfer, sait que les tentations individuelles ne font pas de fruits durables. Il en est tout autrement des tentations qui utilisent comme vecteur les institutions sociales, les lois d'un pays, les coutumes d'un peuple. La famille est une des cellules de base de notre société, tant au point de vue naturel qu'au point de vue surnaturel. Tout homme doit énormément à cette institution toute divine. Et c'est pourquoi le diable et ses suppôts dirigent tous leurs efforts pour détruire cette pierre fondamentale de l'ordre social. Les attaques venant tant de l'extérieur que de l'intérieur de la famille. Attaques de l'extérieur, les lois qui permettent le divorce, l'émancipation des femmes, la libéralisation des mœurs, c'est-à-dire l'étalage du péché mortel partout dès le plus jeune âge. Encore, la loi sur les héritages qui prive les familles du travail de leurs aïeux, la laïcité de la société qui met Dieu dehors, ou au mieux, au même rang que Bouddha et Mahomet. Et cette liste est loin d'être exhaustive. Attaques maintenant de l'intérieur de la famille. Elles viennent des membres de la famille eux-mêmes, qui, faute d'avoir bénéficié d'une bonne éducation, ou qui l'ont perdue, sous l'influence de la société et de leurs propres passions, se laissent conduire par leur égoïsme. La famille, alors, devient un lieu où chacun se recherche soi-même, au travers des autres membres de la famille, sans aucun esprit de sacrifice. Et c'est un miracle si la chose tient longtemps. Que de catastrophes, même dans la tradition. Mais ce qui intéresse surtout le diable et ses suppôts pour asseoir leur pouvoir et ainsi posséder le levier le plus puissant qui soit pour perdre les hommes, c'est l'instauration du nouvel ordre mondial. Or pour cela, la destruction de la famille ou sa perversion est absolument nécessaire. Il nous faut bien comprendre que la famille est la base de la société. Si cette base est pervertie, dénaturée, détruite, c'est toute la société qui vacille, qui en subit les conséquences les plus regrettables. Dieu a voulu que nous reçussions la vie les uns des autres, et que par là nous puissions constituer, non dans la liberté et l'égalité sociale, mais dans la dépendance de nos parents et dans la hiérarchie qui devait naître de cette dépendance. C'est très important ça. Dès que vous avez une dépendance, il y a une hiérarchie qui découle de cette dépendance. Dieu créa Adam, puis il tira du corps d'Adam la chair dont il fit le corps d'Ève. Il bénit alors l'homme et la femme en leur disant « Soyez féconds, féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. » Dieu créa ainsi la première famille, il en fit une société et il la constitua sur un tout autre plan que celui de l'égalité sociale. La femme soumise à l'homme et les enfants soumis à leurs parents. Nous trouvons donc aux origines même du genre humain les trois grandes lois sociales. L'autorité, la hiérarchie et l'union. L'autorité qui appartient aux auteurs de la vie. La hiérarchie qui fait l'homme supérieur à la femme et les parents supérieurs à leurs enfants. L'union que doivent conserver entre eux ceux qu'un même sang vivifie. Les États sont sortis de cette société première qu'est la famille. La famille, dit Cicéron, est le principe de la cité et en quelque façon la semence de la République. Et République, dans la bouche de Cicéron, signifie l'État, la chose commune, la chose qui est commune à tous les citoyens. L'ordre social dépend donc des familles. Et ici, nous nous plaçons au point de vue naturel. Tout cela tient à la nature sociale de l'homme. L'homme a reçu l'existence dans la famille, dans une petite société constituée normalement au minimum d'un père et d'une mère, et il a été éduqué dans ce foyer. Les familles elles-mêmes se soutiennent les unes les autres dans la cité et la cité dans l'État. Ceci est encore plus vrai si nous abordons les choses d'un point de vue surnaturel. Les enfants dans le plan de Dieu doivent être présentés au baptême dès les premiers jours de leur vie par leurs parents, recevoir de ceux-ci les premiers enseignements touchant la foi, avant d'être conduits par ces mêmes parents au catéchisme, placés par eux dans une bonne école, être aidés au foyer à lutter contre leurs défauts, pour que la vie de la grâce, cette vie de notre Seigneur Jésus-Christ, puisse s'épanouir en sainteté. Pour assurer cette bonne marche de la famille, trois fondements doivent être à tout prix maintenus, qui en sont l'âme, le principe et la vie. Il s'agit de l'autorité du Père, de la sainteté de la Mère et du culte des ancêtres. Abordons ces trois points qui sont absolument fondamentaux. Tout d'abord, l'autorité du Père. Elle était absolue à Athènes et à Rome. Le Père, chez les siens, était roi. Il avait de la royauté, la dignité et la puissance. Et cette puissance allait jusqu'à contenir le droit de vie et de mort sur les siens. Droit sans doute abusif, mais on comprend le principe. Chez nous, le Père n'a jamais pu prononcer sur ses enfants la peine capitale, Dieu merci. Mais il était leur premier juge. Au XVIIIe siècle encore, le père conserve le droit de priver son fils de la liberté. Celui-ci fut-il majeur, fut-il marié. Et le souverain n'hésitait pas à mettre sa puissance royale à la disposition du père de famille. Vous jugez peut-être ce droit abusif, mais regardez, les prisons ont été vides, aujourd'hui elles sont pleines et on en construit encore. Faute d'autorité paternelle qui puisse assurer une éducation correcte des enfants. Ils finissent en prison. L'autorité paternelle était considérée comme étant d'une essence supérieure aux autres, et c'est pourquoi elle était si profondément respectée. Saint François de Sales, écrivant à l'une de ses nièces, lui disait « Vous voilà donc auprès de Monsieur votre Père, que vous regardez comme une image du Père éternel. » Et c'est en cette qualité que nous devons honneur et révérence à ceux desquels il s'est servi pour nous produire. » Fin de citation. Ébranlée au XVIIIe siècle par la corruption des mœurs, l'autorité paternelle fut quasi détruite par la Révolution dite française. « La voix impérieuse de la raison, proclama l'un de ses législateurs, s'est fait entendre. Il n'y a plus de puissance paternelle. Un homme ne saurait avoir de pouvoir direct sur un autre, fût-il son fils. » C'est la voix de la Révolution. Plus d'autorité paternelle. La littérature agit dans le même sens que la loi. elle combat sans relâche la vieillesse et l'âge mûr. L'école aussi, par les connaissances qu'elle donne dans l'ordre des choses matérielles, persuade aux enfants qu'ils ont une véritable supériorité sur leurs parents qui ignorent ces connaissances. Les conséquences sont terribles. La disparition du respect et de l'obéissance chez les jeunes gens, leur émancipation et comme conséquence une corruption extrême des mœurs privées et des mœurs publiques. Enfin, la déchéance de la race et la société mise en péril. C'est le monde dans lequel nous vivons. Le pouvoir du Père est celui qui, dans l'ordre naturel, offre au plus haut degré les caractères d'une institution divine. Revêtue d'une légitimité si haute, cette autorité est nécessaire à un triple point de vue. Pour assurer l'existence de la femme et des enfants, rôle protecteur. Pour éduquer des enfants blessés par le péché originel, et sans l'autorité du Père, cette chose est quasi impossible. Troisièmement, pour transmettre par l'éducation le trésor de vérité morale et d'expérience amassé par les siècles. Et c'est un service des plus importants rendu à la société. Ainsi, l'autorité paternelle a été partout, si ce n'est chez nous à l'heure présente malheureusement, toujours considérée comme l'une des bases de l'ordre social. Elle est absolument nécessaire à toutes les races de la terre, de tous les temps, de tous les siècles, comme l'un des éléments invariables de l'autorité, de l'ordre social. À l'autorité du Père doit se joindre maintenant, deuxième chose, la sainteté de la mère. Heureux l'homme à qui Dieu a donné une sainte mère, a dit un poète, qui eut ce bonheur. Combien d'autres mères ont imprimé profondément dans l'âme de leurs enfants le respect, le culte, l'adoration de Dieu, dont elles étaient elles-mêmes l'image vivante par la pureté de leur vie. La mienne, dit encore ce même poète, avait la piété d'un ange. Quel exemple ! Je veux faire de mon fils un saint, disait la mère de saint Athanase. Merci mille fois, mon Dieu, de nous avoir donné pour mère une sainte, s'écriait à la mort de sainte Émilie ses deux fils, saint Basile et saint Grégoire de Nice. Ô mon Dieu, je dois tout à ma mère, disait saint Augustin. Dans sa reconnaissance de l'avoir si profondément imprégné de la doctrine du Christ, saint Grégoire le Grand fit peindre sa mère, sainte Sylvie, à côté de lui, vêtue d'une robe blanche, avec la mitre des docteurs. Elle lui avait enseigné la loi de Dieu tout petit. Étendant deux doigts de la main droite, comme pour le bénir, et tenant de la main gauche le livre des saints évangiles, sous les yeux de son fils. Bel acte de reconnaissance pour sa maman. À quelques-uns qui le félicitaient d'avoir eu de bonheur le goût de la piété, le saint curé d'Ars répondait « Après Dieu, c'est l'ouvrage de ma mère. » Presque tous les saints ont fait remonter les origines de leur sainteté à leur mère. Il en est de même pour beaucoup de grands hommes, comme Charlemagne par exemple. Car, nous dit Monseigneur de Lassus, elle est au foyer ce flambeau resplendissant dont parle l'Évangile, répandant sur tous la lumière de la foi et les feux de la charité divine. À elle de faire vivre dans la famille la pensée de la souveraineté de Dieu, notre premier principe et notre dernière fin, celle de l'amour et de la reconnaissance que nous devons avoir pour son infinie bonté, la crainte de sa justice aussi, l'esprit de religion qui nous unit à lui, la loi des chastes mœurs, de l'honnêteté des actes et de la sincérité des paroles, celle du dévouement et du support mutuel, celle du travail et de la tempérance. La Révolution sait tout cela. et à chercher à pervertir les femmes. Ce fut bien plus compliqué et cela prit bien plus de temps que pour la corruption des hommes. Mais la bête immonde finit par réussir, et c'est pourquoi nous sommes dans une situation qui est des plus désespérées. Troisième fondement de la famille, le culte des ancêtres, qui comprend l'obéissance et le respect des enfants à leurs parents. L'obéissance des enfants est le corollaire, la conséquence immédiate de l'autorité du père. Mais il faut aller plus loin. Une famille n'en est une que si elle cultive le culte des ancêtres dans sa plus large compréhension du terme. Ce culte a existé dans les nations païennes. Il était vivant dans nos sociétés chrétiennes et nous le voyons en Chine constituer presque toute la religion. Chez les païens, il dut ne consister d'abord que dans les sentiments de reconnaissance des enfants pour le père qui les avait élevés et de la famille pour l'aïeul qui avait fait sa situation et qui lui avait donné la leçon et l'exemple des vertus morales par lesquelles elle prospérait. Bientôt, chez les païens, ces sentiments se traduisirent en un culte proprement dit. On offrait à l'ancêtre des sacrifices sur son tombeau, c'est l'esprit païen. De plus, un autel était dressé au foyer de la maison familiale. Le feu ne devait jamais cesser de brûler sur cet autel. La fin du feu signifiait la mort de la famille. Leçon intéressante que nous donnent ces païens. Le culte des ancêtres et la vie de la famille, c'est la même chose. Notre sainte religion n'a rien détruit de tout ce qui a jailli naturellement de l'âme humaine, mais elle a tout purifié, tout élevé, tout embelli. Elle veut, elle aussi, que nous gardions religieusement le souvenir des auteurs de nos jours, que nous conservions leurs leçons et leurs exemples, et que nous les fassions passer aux générations suivantes. Mais de plus, la Sainte Église veut que nous restions en communion avec nos aïeux, avec le père et la mère, les frères et les sœurs qui nous ont précédés dans le monde d'après. Elle veut que nous prions pour eux, s'ils sont en purgatoire, et que nous les prions, ceux qui sont déjà au ciel, et que nous allions à la fois leur secours, pour ceux qui sont en purgatoire, et que nous mettions notre confiance dans ceux qui nous attendent au ciel. C'est pour cela que l'Église met sous nos yeux la Sainte Famille aujourd'hui. Elle qui montre l'exemple le plus parfait et le plus saint de l'autorité du Père, de la sainteté de la Mère et de la soumission du Fils à ses parents, ainsi que du culte des anciens patriarches qui ont tracé le chemin jusqu'au temps messianique. Saint Joseph, le Père putatif de Jésus, quoique le moins digne, et pourtant le chef, et il tient la place de Dieu le Père dans la Sainte Famille. En lui, quelle humilité, quelle simplicité, quel dévouement, quelle tendre sollicitude pour Jésus et pour Marie. Marie, la plus sainte des créatures, après notre Seigneur, la vraie mère de Jésus selon la chair, qui pourrait dire son humilité, sa modestie, son amour pour Jésus, sa déférence pour Saint Joseph ? Jésus, enfin, le Fils de Dieu, le Verbe incarné, descendu sur la terre pour nous sauver et nous enseigner toutes les vertus. Quoi qu'il fût la sainteté incarnée, il était soumis à ses parents, à Marie et à Joseph, leur obéissant en toutes choses. C'est l'évangile d'aujourd'hui. Que les pères de famille prennent donc Saint Joseph comme modèle, pour prendre conscience de cette autorité qu'ils ont reçue de Dieu, qu'ils sachent l'utiliser comme Saint Joseph, avec bonté, prudence, justice et force, pour le bien de tous. Que les mères de famille se modèlent à l'image de la Vierge Marie, soumise à Dieu et à leur époux, cultivant au foyer familial ce climat de prière et de dévotion. Que les enfants enfin mettent sous leurs yeux l'attitude de l'enfant Jésus, qui toujours respecta et obéit à ses parents, pourtant si inférieurs à lui. Et c'est la condition, ces trois choses. Autorité du Père, sainteté de la Mère, culte des ancêtres, ce sont les conditions absolument nécessaires pour que la famille tout entière soit chérie de Dieu, fasse la joie des anges et porte les plus beaux fruits de sainteté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.